Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours, de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Philippe Carminati et Yvan Charby à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, dont je vous recommande la suite d'une conversation poignante avec David Camus, petit-fils d'Albert, dans le journal des Nouveaux Chemins à 10h50. Car c'est la suite, ce jeudi, d'une semaine sur Albert Camus dans Les Nouveaux Chemins. Après avoir écouté hier Bernard-Henri Lévy, avant d'entendre demain Pierre-Louis Rey et Jean-Louis Saint-Ignan, c'est aujourd'hui Denis Salas et Jean-Yves Guérin qui sont les invités des Nouveaux Chemins pour évoquer la question de Camus et du terrorisme.
Je ne pouvais pas prévoir. Les enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie, je te le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir, je crois que je riais. Et je disais, oui, oui. Tu comprends? J'ai couru vers elles. C'est à ce moment que je les ai vues. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient, tout droit, et regardaient dans le vide. Comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande duchesse, je n'ai vu qu'eux. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe, pour étreindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Dora, ai-je rêvé? Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là.
Non, Yannick, tu n'as pas rêvé, lui répond Dora. Yannick, c'est Kaliaïev. On est dans les justes, on est dans l'acte 2 des justes. Moment d'un attentat manqué, ou plus exactement d'un homme qui réussit à ne pas commettre le crime qu'il avait prévu de commettre au nom de la Révolution. C'est Les Justes de Camus, c'est une pièce admirable, une pièce didactique et pourtant admirable. Première question, puisque c'est de cela qu'on va parler et c'est autour de cette difficulté que la conversation d'aujourd'hui va tourner avec à ma droite Jean-Yves Guérin et à ma gauche Denis Salas. Première question, le geste ou le non-geste de Kaliaïev, Jean-Yves Guérin, est-il un acte de lâcheté ou un acte de courage du point de vue de Camus? Le geste d'un homme qui ne jette pas sa bombe parce qu'il voit des enfants.
C'est un acte de courage et c'est un acte éthique. Pour Camus, tout n'est pas permis. Si il faut, dans certaines circonstances, recourir à la violence, il faut poser des limites à cette violence, c'est-à-dire sélectionner les cibles. Camus, dans un texte de combat clandestin, avait dit qu'il fallait s'attaquer à la milice, mais pas s'attaquer aux nourrissons des miliciens.
C'est toute la difficulté, puisque pour Camus, Camus ne cesse de dire que la violence est toujours illégitime, et pourtant, on est, et là on est au cœur d'emblée d'une tension propre à Camus, Denis Salas, la violence est toujours illégitime et elle est pourtant inévitable. Le fait de la tenir constamment, systématiquement et par principe pour illégitime ne suffit pas à dire qu'il ne faut jamais la pratiquer.
Oui, je crois que c'est très, très intéressant de voir que Camus aborde la question de la violence sans aucun parti pris théorique. Il l'aborde comme un fait, comme une réalité avec laquelle il faut composer. Il a été actif pendant la résistance, il a vu la violence de près, il sait qu'elle est dans certains cas nécessaire face à la barbarie nazie par exemple, il l'a bien expérimenté lui-même, et donc il ne peut pas avoir une position purement théorique par rapport à cela, donc il va dire qu'elle est à la fois nécessaire et en même temps injustifiable, et il va tenir cette tension de bout en bout dans ses écrits théoriques et dans Les Justes. Et il va créer deux personnages. On a vu le personnage de Kaïaïev dans le texte qui a été cité tout à l'heure. Mais il va aussi créer le personnage de Stepan, qui me semble extrêmement important pour opposer deux conceptions de terrorisme. Un terrorisme qui va jusqu'au bout d'une violence parce qu'il ne voit pas la cible, il voit à travers la cible uniquement une abstraction, le despotisme.
C'est Stepan, ça.
C'est Stepan, absolument, Stepan. Mais Stepan aussi, lui aussi, a beaucoup souffert. C'est un bagnard. On voit sur son corps les traces de la violence du bagne. Donc, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout d'une violence qu'il a lui-même reçue préalablement. Donc, Camus comprend aussi cette violence. Et puis, il va opposer à cette violence de Stepan. C'est le grand dialogue qui a lieu après la tentative d'assassinat du grand-duc qui n'aboutit pas à cause de la présence des enfants. Stepan va opposer cette violence-là, seule légitime à ses yeux. Et Kaïev va construire sa propre position, qui est une violence modérée, une violence qui a conscience des limites, une violence, celle des terrorismes délicats, comme les appelle Camus dans son propre vocabulaire.
C'est-à-dire une violence en guerre contre elle-même. Oui. En l'occurrence, oui. Il faut revenir sur ce dialogue entre Stepan et Kaïev, cette première rencontre. Stepan est d'emblée sceptique devant cette espèce d'enthousiaste, joyeux, heureux, amoureux de la vie. Il dit qu'il est révolutionnaire parce qu'il aime la vie, Kaïev. Stepan, lui, se méfie de cela. Il dit « je mets la justice au-dessus de la vie ». Alors, il y a une objection typiquement camusienne ici, un débat typiquement camusien. Mais ce qui est également camusien et qu'on connaît moins et que Stepan, Jean-Yves Guérin, n'aime pas chez Kaliaïev, c'est que Kaliaïev est un poète et il n'aime pas les poètes. Pourquoi le révolutionnaire déteste-t-il les poètes dans une perspective camusienne ?
Parce que c'est du temps perdu que d'écrire des vers, c'est du temps perdu d'aller au théâtre, parce que ce qui compte avant tout, c'est l'efficacité totale du militant. Il y a un côté un peu léniniste et stalinien chez Stepane.
Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que être poète, c'est être créateur ?
Oui, aussi.
Denis Salas.
Oui, il y a ce qui est insupportable pour Stepan, c'est que Kaliaïev invente, justement, en tant que créateur, une position spécifique par rapport à l'acte qui lui est demandé par l'organisation.
Et intenable.
Intenable, parce que Stepan dit à un moment donné « je tuerai ses enfants et le grand-duc parce que l'organisation me le demande ».
Mais c'est le moment où il ferme les yeux.
C'est le moment où il ferme les yeux, mais c'est en même temps le moment où il obéit à son organisation de manière aveugle. Et Kaïev rétablit le regard sur la cible, en quelque sorte, réhumanise la cible, et dans le dialogue avec Dora qui suivra après, on verra à quel point cette réhumanisation de la cible est importante, et cette réhumanisation de la cible empêche, d'un point de vue éthique, de son point de vue à lui, cet acte fatal. Donc c'est bien le créateur, le poète, qui crée son acte au moment où il le fait, alors que Stepan est quelqu'un qui applique la norme de l'organisation sans réinventer son acte au moment où il le commet.
Jean-Yves Guérin.
Stepan dit aussi que les militants révolutionnaires ont tous les droits. Oui. C'est pour Kaliaev, pour Dora aussi, les militants n'ont pas tous les droits.
Ouais. Dora, le personnage de Dora, je le dis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les Justes en tête, Dora est un personnage bouleversant dans la mesure où c'est par amour pour Kaliaev, hein, qu'elle rentre dans ses raisons. C'est un être que l'amour, d'une certaine manière, vaincu par le sentiment que lui inspire le poète, partagé entre l'absolutisme de l'idéal révolutionnaire et les compromis nécessaires, les consentements nécessaires qu'implique le fait d'être amoureux.
Denis Salas. Et Dora partage jusqu'au bout le parcours de Kayaïev, parce que quand il commettra finalement l'assassinat au bout du compte et qu'il sera capturé par les policiers du tsar, il lui sera offert une grâce qu'il refusera au nom de la cause qu'il défend selon lui noblement et d'un point de vue acceptable. Et il va donc être exécuté. Et à partir de ce moment-là, Dora refuse de vivre et à son tour accepte la mort qui lui est en quelque sorte donnée par l'exemple de Kayaïev. Donc tous les deux sont dans une position sacrificielle, mais avec une position de noblesse d'âme qu'ils partagent. Dora et Kayaïev face à Stéphane et son organisation.
On est ici dans les justes. Comme toujours chez Camus, il faut se promener d'un texte littéraire à un texte philosophique, sans d'ailleurs véritablement savoir si l'on change de registre à chaque fois. Car il y a, dans L'homme révolté, des pages qui sont de pure poésie, réponse implicite justement à l'objection de Stéphane, hein, les poètes ne sont pas révolutionnaires. Le simple fait que L'homme révolté ait des moments de bravoure poétique, notamment le dernier chapitre, La pensée de midi, ce simple fait-là montre bien que la poésie est en elle-même une réplique à une violence qui, ivre d'elle-même, perd le droit de s'appeler révolte. Et donc il faut se promener d'un texte à l'autre sans pour autant savoir véritablement où l'on se trouve, car il y a dans les justes des moments peut-être exagérément didactique d'ailleurs. Hein. C'est une pièce limpide. C'est une pièce à laquelle d'ailleurs beaucoup de critiques ont reproché, comme pour La Peste en un sens, le caractère évident des paraboles qu'elle met en œuvre. C'est un reproche qui est peut-être infondé. En tout cas, à ce reproche doit correspondre un compliment qui est celui d'avoir su littérariser les essais en eux-mêmes. Et pour vous en donner un exemple, on va entendre tout de suite un extrait de L'homme révolté qui, en un sens, reprend littéralement les problématiques qui sont mises en scène dans les justes. Écoutez.
Aux yeux du révolté, ce qui manque à la douleur du monde, comme aux instants de son bonheur, c'est un principe d'explication. L'insurrection contre le mal demeure avant tout une revendication d'unité. Au monde des condamnés à mort, à la mortelle opacité de la condition, le révolté oppose inlassablement son exigence de vie et de transparence définitive. Il est à la recherche, sans le savoir, d'une morale ou d'un sacré. La révolte est une ascèse, quoique aveugle. Si le révolté blasphème, alors, c'est dans l'espoir du nouveau Dieu. Il s'ébranle sous le choc du premier et du plus profond des mouvements religieux. Mais il s'agit d'un mouvement religieux déçu. Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige, même si ce qu'elle obtient est encore ignoble. Du moins, faut-il savoir reconnaître ce qu'elle obtient d'ignoble. Chaque fois qu'elle défie le refus total de ce qui est, le non absolu, elle tue. Chaque fois qu'elle accepte aveuglément ce qui est et qu'elle crie le oui absolu, elle tue. La haine du créateur pour tourner en haine de la création ou en amour exclusif et provoquant de ce qui est. Mais dans les deux cas, elle débouche sur le meurtre et perd le droit d'être appelée révolte.
Ce texte-là est particulièrement intéressant dans la mesure où, à première vue, quand on a une connaissance standard de Camus, on peut être surpris par son contenu, car quand on lit L'homme révolté, la première chose qu'on retient de la lecture de L'homme révolté, c'est que l'homme révolté dit non et qu'au principe du non se trouve un oui. Or ici, étrangement, Jean-Yves Guérin, Camus met sur le même plan le non absolu et le oui absolu. Comme si, au fond, l'adversaire n'était pas la négation ou l'approbation, à plus forte raison, mais le caractère absolutiste de la négation ou de l'approbation.
Absolument. Camus est allergique à tous les absolus, qu'ils soient religieux, idéologiques, politiques. à tous les absolus et aussi à toutes les transcendances. Et nous avons appris au XXe siècle qu'il y avait de la transcendance dans le politique. Là-dessus, je vois, il reste cohérent avec lui-même dans ce texte, peut-être un peu inattendu, c'est vrai.
C'est un texte inattendu de ce point de vue. Alors, il faut bien noter, parce que c'est difficile à entendre, hein. Ça n'est pas chaque fois qu'elle défie le refus total de ce qui est, c'est chaque fois qu'elle déifie le refus total de ce qui est. Il s'agit de ne pas déifier le refus de Denis Salas.
Oui, je crois qu'il y a aussi dans ce texte et dans L'homme révolté une analyse critique de la théocratie totalitaire qu'il avait connue ô combien à son époque. Tout ce qui, pour Camus, ressemble à une déification de l'État, à une absolutisation du pouvoir politique, est par définition douteux, d'une certaine manière. Il a mis en scène, dans une pièce qu'on peut discuter, L'État de siège, dans les années 47, je crois, il a mis en scène ce rapport de la révolte avec la peste, entre guillemets, dans cette scène, qui est un défi, une révolte contre le pouvoir totalitaire.
Pourquoi dites-vous qu'on peut douter de L'État de siège? Parce que c'est une mauvaise pièce?
Non, je trouve que c'est une pièce qui est un peu didactique pour le coup et qui me convainc moins que d'autres textes, comme au même moment le roman La Peste. Mais bon, c'est une appréciation personnelle, même s'il y a des passages très, très forts. Il y a peut-être dans l'état de siège une démonstration extrêmement forte du défi de la révolte à l'égard du pouvoir et une volonté de mettre en face de ce pouvoir la révolte à l'état pur comme étant fondée, justifiée et fondée dans son propre acte. Donc chez Camus, il y a, je me résume, une critique extrêmement continue de la théocratie totalitaire et en même temps une volonté de ramener l'État à une dimension modeste. Donc l'idée d'un État modeste que l'on retire de ces transcendances, théocratiques, est quelque chose qui vient constamment sous sa plume, y compris jusqu'à la critique de la peine de mort, qui sera pour lui une sorte d'apothéose sanglante de cette théocratie totalitaire.
On va entendre, tiens d'ailleurs, hein, deux extraits simultanés avant que vous repreniez la parole sur ce sujet-là, justement, Jean-Yves Guérin, pour mettre en miroir un passage de l'état de siège, où la peste prend la parole. Et puis, juste après, on va juxtaposer la lecture des deux, le passage, un des extraits les plus fameux des réflexions de Camus sur la guillotine, dans lesquelles Camus, tout en comprenant d'ailleurs le geste de celui qui peut venger la mort de quelqu'un, s'en prend à la peine de mort en termes légaux, dans la mesure où il explique qu'elle est d'abord affaire de vengeance. Donc, on commence par un extrait de l'état de siège, puis des réflexions sur la guillotine. Georges.
Moi, je règne. C'est un fait. C'est donc un droit. Mais c'est un droit qu'on ne discute pas. Vous devez vous adapter. Du reste, ne vous y trompez pas. Si je règne, c'est à ma manière. Et il serait plus juste de dire que je fonctionne. Vous autres Espagnols êtes un peu romanesques et vous me verriez volontiers sous l'aspect d'un roi noir ou d'un somptueux insecte. Il vous faut du pathétique, c'est connu. Eh bien non, je n'ai pas de sceptre, moi, et j'ai pris l'air d'un sous-officier. C'est la façon que j'ai de vous vexer, car il est bon que vous soyez vexés. Vous avez tout à apprendre. Votre roi a les ongles noirs et l'uniforme strict. Il ne trône pas. Il siège. Son palais est une caserne, son pavillon de chasse, un tribunal. L'état de siège est proclamé. C'est pourquoi, notez cela, lorsque j'arrive, le pathétique s'en va. Il est interdit, le pathétique, avec quelques autres balançoires, comme la ridicule angoisse du bonheur, le visage stupide des amoureux, la contemplation égoïste des paysages et la coupable ironie. À la place de tout cela, j'apporte l'organisation. Ça vous gênera un peu au début, mais vous finirez par comprendre qu'une bonne organisation vaut mieux qu'un mauvais pathétique.
Et maintenant, les réflexions sur la guillotine.
Si donc l'on veut maintenir la peine de mort, qu'on nous épargne au moins l'hypocrisie d'une justification par l'exemple. Appelons par son nom cette peine à qui l'on refuse toute publicité, cette intimidation qui ne s'exerce pas sur les honnêtes gens, tant qu'ils le sont, qui fascine ceux qui ont cessé de l'être et qui dégrade ou dérègle ceux qui y prêtent la main. Elle est une peine, certainement, un épouvantable supplice, physique et moral. Mais elle n'offre aucun exemple certain, sinon démoralisant. Elle sanctionne, mais elle ne prévient rien quand elle ne suscite pas l'instinct de meurtre. Elle est comme si elle n'était pas, sauf pour celui qui l'a subi, dans son âme pendant des mois ou des années, dans son corps pendant l'heure désespérée et violente où on le coupe en deux sans supprimer sa vie. Appelons-la par son nom, qui, à défaut d'autre noblesse, lui rendra celle de la vérité. Et reconnaissons-la pour ce qu'elle est, essentiellement, une vengeance.
Jean-Yves Guérin, que vous inspire la juxtaposition de cette peste qui déclare qu'elle règne, c'est un fait, donc c'est un droit, et qui, à la place de la contemplation égoïste des paysages et du visage stupide des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, apporte l'organisation. Et la dénonciation de la peine de mort, quand la loi s'en empare, c'est important de le préciser peut-être, au motif qu'elle est d'abord affaire de vengeance.
Alors, le discours de la peste, c'est un discours de et sur l'État totalitaire. L'État absolu, l'État qui écrase l'individu, la société et les libertés. La violence à l'État pur. Et mais une violence qui passe
endosse la vie de la loi.
Par l'organisation bureaucratique et par une perversion de la loi. Réflexion sur la guillotine, texte de 1956-1957, écrit en pleine guerre d'Algérie. C'est un texte sur la violence d'État. On l'a dit, et Denis Salas le dirait mieux que moi, que c'est un texte qui a des résonances libertaires fortes. L'État démocratique commet des violences quand il garde la peine de mort, lorsqu'il exerce, au fond, une sorte de terrorisme à sa façon dans la peine de mort. Il ne faut pas oublier que lorsque Camus écrit ce texte, un certain nombre de pays, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, ont aboli la peine de mort. Mais en Europe, de nombreux pays, dont la France, ne l'abolissent pas et la pratiquent massivement en Algérie. La guillotine a servi pour les militants algériens. Ça, il ne faut pas l'oublier quand on pense à Camus à l'Algérie.
C'est ici, vous avez raison de le mentionner, une des dimensions, une des facettes de Camus, peut-être peu abordée dans ses rencontres jusqu'ici, celle du Camus libertaire, qui est en jeu.
Oui, alors, Camus a une sensibilité libertaire qui a été trempée par des contacts avec des militants, des vieux militants, anarchistes, anarcho-syndicalistes, français, espagnols, mais on le sait aujourd'hui, d'autres pays. Dans les années 50, il a des liens avec des revues anarchistes et avec des personnalités anarchistes, donc. Cela dit, je dirais que chez lui, le cœur est anarchiste, mais la raison est plutôt socialiste ou social-démocrate. Le malheur des temps fait que les anarchistes, pour lui, et il le sait très bien à cause de l'Espagne, les anarchistes ont perdu le combat. Reste que la problématique anarchiste reste très vivante chez lui. Défiance à l'égard des abus de l'État, des dérives bureaucratiques de l'État, excès de pouvoir, etc., etc. Bon, dans ce que fut la 4e République, je crois que la sensibilité anarchiste de Camus avait toute sa pertinence.
Ce qui ne suffit pas, cela dit, hein, pour faire juste une toute petite parenthèse sur ce sujet, à réduire Camus, justement, à cette option libertaire. Il y aurait pour le coup une opération de falsification qui consisterait à identifier Camus à cette fibre libertaire qu'il a toujours reconnue, qu'il a toujours admise, qu'il a toujours senti vibrer en lui, mais qui n'a jamais pris le dessus chez lui sur... qui n'est jamais devenu chez lui un projet politique, Jean-Yves Guérin.
Absolument, mais parce que dans les années 1940-1950, c'est trop tard. Les enjeux sont autres. Il reste que dans la pensée libertaire, dans les grands textes de l'anarchisme, Proudhon, Bakounine et des auteurs moins connus que Camus connaît, il y a de bonnes questions.
Et on revient un tout petit peu en arrière avec vous, Denis Salas, sur cette question de la violence bureaucratique chez Camus. On va parler après de la question restée, alors pour le coup éminemment problématique, comme la question libertaire d'ailleurs de la guerre d'Algérie. Mais avant cela, quand même, ce caractère bureaucratique de la violence, plus exactement, l'essence même de la violence semble bureaucratique quand on lit le passage de l'état de siège ou d'autres textes d'ailleurs chez Camus.
Ça m'a beaucoup frappé dans le texte que...
D'ailleurs, c'est un point commun qu'il a peut-être avec Sartre.
C'est possible, mais il faudrait faire une comparaison plus précise. Ce qui m'a beaucoup frappé, effectivement, dans le passage, c'est que la peste est accompagnée d'une secrétaire. Je viens de m'en souvenir en lisant. Qui dit secrétaire dit appareil administratif.
Ah oui, bien sûr.
Et qui dit appareil administratif dit organisation. Et qui dit organisation dit une criminalité adossée à une organisation. Donc, d'une certaine manière, sans culpabilité, puisqu'elle a une autorisation illimitée de produire la violence, du moment qu'elle est décidée par le pouvoir théocratique qui est en haut. Donc il y a chez Camus, peut-être dans l'état de siège, c'est une interprétation que j'ose là ce soir sur ce texte, finalement une réflexion sur le crime de papier, le crime de bureau, qui me semble, et qu'on a nous revisité à travers le procès Papon récemment, mais qui me semble quand même, et le procès Eichmann, qui me semble vraiment montrer que le crime de masse est un crime bureaucratique et un crime qui est autorisé par cette bureaucratie.
Vous avez parlé du procès Papon et du procès Eichmann. On peut peut-être se servir des deux en termes camusiens, Jean-Yves Guérin.
Mais peut-être ajouter que l'état de siège est écrit alors que Camus ne peut pas connaître les ouvrages d'Anna Arendt. Là, il y a quelque chose de très remarquable, une intuition d'écrivain.
Il y a vraiment une rencontre extraordinaire.
Je renvoie ici à Eichmann à Jérusalem, c'est-à-dire le compte-rendu qu'Anna Arendt formule du procès à Eichmann. Il y a chez Camus, comme chez Anna Arendt, chez Camus des considérations sur la banalité du mal, plus encore peut-être que la banalité du mal, l'humanité du mal. Vous avez parlé, Denis Salas, du procès Papon et du procès à Eichmann. Si on a la boîte à outils camusienne pour comprendre ces deux événements considérables de l'histoire, est-ce qu'on peut se servir de Camus est-ce qu'avec Camus, on peut critiquer la position de Papon qui dit « je n'ai fait qu'obéir aux ordres », pour le dire très rapidement, et de quelle façon? Et de quelle façon peut-on, avec Camus, aller dans le sens qu'Anna Arendt déploie, qui est celui d'une humanité du mal, c'est-à-dire de l'idée qu'au fond, le meurtrier, tout le problème vient du fait que le meurtrier n'est pas le monstre qu'on voudrait voir en lui, mais que c'est un humain, Denis Salas.
Sa responsabilité, sa manière, est annulée par son appartenance à l'organisation, à la bureaucratie. Et tout le problème de la justice, c'est à travers cette entreprise de déresponsabilisation qu'est l'organisation bureaucratique totalitaire, de réintroduire la responsabilité individuelle dans les actes qui ont été commis par l'individu lui-même dans sa capacité décisionnelle. Ce qui était très frappant dans le procès Papon, excusez-moi cette petite parenthèse, c'est la précision de l'acte d'accusation. C'est-à-dire qu'on imputait à Papon non pas un vague crime bureaucratique, mais les convois qui, effectivement, avait pris la décision de faire partir. Et on avait nommé chaque victime en particulier. Donc on avait réintroduit le visage de la victime, notamment des enfants victimes, dans le spectre de la machine totalitaire qui, justement, est organisée pour ne pas voir le visage des victimes.
Il y a un texte peu connu de Camus, c'est son texte aux lettres françaises sur Pucheux, où il parle de Pucheux dans les mêmes termes que Anna Arendt parle d'Eichmann.
Il faut peut-être préciser pour tout le monde. Voilà.
Pucheux est un ministre de Vichy qui a été exécuté en 43, je crois, 43, assez tôt, à la demande des communistes, avec une pression très forte pouvoir gaulliste de l'époque, qui a été la première exécution suite à un procès, entre guillemets, qui a marqué la volonté de la résistance de marquer son territoire par rapport à la libération future.
Et Puchet était ministre de l'Intérieur, et c'est à lui qu'on impute les massacres de Châteaubriand, notamment.
Les massacres de communistes à Châteaubriand, en particulier.
Venons-en au problème, non pas au problème camusien, mais au problème qui fut celui de Camus lui-même, un problème insoluble, un problème irrésolu, un problème non résolu en tout cas, qui est la question algérienne. Pour mémoire, Camus n'a pas vu l'indépendance de l'Algérie, il est mort en 1960. On va entendre un long extrait de l'avant-propos de Camus aux Chroniques algériennes, histoire de savoir et de vérifier que, contrairement à une légende tenace et fétide, Camus était plus sensible qu'un autre aux douleurs qui étaient celles, en particulier des ouvriers musulmans. Ses reportages sur la misère en Kabylie le disent bien assez. C'est quand même, Camus est quand même, pour mémoire, le seul adversaire résolu, constant du FLN à avoir été lui-même, en un sens, banni d'Algérie pour avoir pris la défense des ouvriers musulmans. On va entendre un extrait de l'avant-propos aux Chroniques algériennes, mais avant cela, un extrait de la Tribune de Paris, dans laquelle Camus répond à la question de savoir s'il y a un problème algérien. Écoutez Albert Camus en personne.
Il y a une première question, messieurs. Y a-t-il un problème algérien? Cette question, nous la posons d'abord à Albert Camus.
Eh bien, je suppose que s'il y a un problème algérien, c'est un problème qui dure depuis 116 ans exactement. Et d'autre part, il me semble difficile de nier que ce problème n'existe pas, puisqu'il nous a coûté plusieurs milliers de victimes en mai 1945. Mais les éléments du malaise algérien, il me semble qu'on peut les définir de plusieurs façons, mais qu'une des bonnes perspectives pour les aborder serait de reprendre un peu ce qu'a dit M. Borat tout à l'heure, qui attribuait à la misère et au fond aux difficultés économiques la majeure partie de la crise de l'Afrique du Nord. Je crois au contraire que cette crise économique, si elle a joué un rôle très important, n'est cependant que ne représente qu'un aspect de la crise générale et que la crise politique est beaucoup plus importante que la crise économique. Si on arrivait à régler le problème économique, il est bien certain qu'on faciliterait la solution de la crise politique. Il n'empêche pas que le problème politique demeure et c'est lui qu'il faut définir.
Les représailles contre les populations civiles et les pratiques de torture sont des crimes dont nous sommes tous solidaires. Que ces faits aient pu se produire parmi nous, c'est une humiliation à quoi il faudra désormais faire face. En attendant, nous devons du moins refuser toute justification, fût-ce par l'efficacité, à ces méthodes. Dès l'instant, en effet, où même indirectement on les justifie, il n'y a plus de règles ni de valeurs. Toutes les causes se valent et la guerre, sans but ni loi, consacre le triomphe du nihilisme. Bon gré mal gré, nous retournons alors à la jungle où le seul principe est la violence. Ceux qui ne veulent plus entendre parler de morale devraient comprendre, en tout cas, que même pour gagner les guerres, il vaut mieux souffrir certaines injustices que les commettre, et que de pareilles entreprises nous font plus de mal que sans maquis ennemis. Lorsque ces pratiques s'appliquent, par exemple, à ceux qui, en Algérie, n'hésitent pas à massacrer l'innocent ni, en d'autres lieux, à torturer ou à excuser que l'on torture, ne sont-elles pas aussi des fautes incalculables, puisqu'elles risquent de justifier les crimes même que l'on veut combattre? Et quelle est cette efficacité qui parvient à justifier ce qu'il y a de plus injustifiable chez l'adversaire? À cet égard, on doit aborder de front l'argument majeur de ceux qui ont pris leur parti de la torture. Celle-ci a peut-être permis de retrouver 30 bombes au prix d'un certain honneur, mais elle a suscité du même coup 50 terroristes nouveaux qui, opérant autrement et ailleurs, feront mourir plus d'innocents encore. Même acceptée au nom du réalisme et de l'efficacité, la déchéance ici ne sert à rien qu'à accabler notre pays à ses propres yeux et à ceux de l'étranger. Finalement, ces beaux exploits préparent infailliblement la démoralisation de la France et l'abandon de l'Algérie. Ce ne sont pas des méthodes de censure honteuses ou cyniques, mais toujours stupides, qui changeront quelque chose à ces vérités. Le devoir du gouvernement n'est pas de supprimer les protestations, même intéressées, contre les excès criminels de la répression, il est de supprimer ces excès et de les condamner publiquement pour éviter que chaque citoyen ne se sente responsable personnellement des exploits de quelques-uns et donc contraint de les dénoncer ou de les assumer. Mais pour être utile, autant qu'équitable, nous devons condamner avec la même force et sans précaution de langage le terrorisme appliqué par le FLN aux civils français comme, et d'ailleurs, et dans une proportion plus grande, aux civils arabes. Ce terrorisme est un crime qu'on ne peut ni excuser, ni laisser se développer. Sous la forme où il est pratiqué, aucun mouvement révolutionnaire ne l'a jamais admis. Et les terroristes russes de 1905, par exemple, seraient morts, ils en ont donné la preuve, plutôt que de s'y abaisser. On ne saurait transformer ici la reconnaissance des injustices subies par le peuple arabe en indulgence systématique à l'égard de ceux qui assassinent indistinctement civils arabes et civils français sans considération d'âge ni de sexe. Après tout, Gandhi a prouvé qu'on pouvait lutter pour son peuple et vaincre sans cesser un seul jour de rester estimable. Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant.
Les échos des justes ici sont permanents, hein. Ne serait-ce dans la référence explicite aux terroristes russes de 1905. Rappelons que c'est le contexte que les justes décrivent. Et puis, évidemment, le déshonneur d'une cause par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. Mais peut-être plus encore Denis Salas ou Jean-Yves Guérin, qui veut d'ailleurs, on va en discuter tous ensemble, mais ce qui est fascinant dans ce texte admirable, c'est à quel point Camus est capable, on lui a reproché d'ailleurs son indécision et sa faiblesse sur cette affaire. D'abord, c'est fou de voir à quel point il est prémonitoire et de dire qu'ils vont perdre l'Algérie, c'est l'abandon de l'Algérie qui est en jeu ici. Et puis, de voir à quel point cet homme est capable d'envisager deux vérités.
Oui. Ce qui est tout à fait important de noter dans ce texte, c'est qu'il y a une volonté intellectuelle chez Camus de ne pas dissocier la critique du terrorisme et la critique de la torture. Pour lui, ces deux phénomènes sont pris dans un engrenage sanglant. Il appelle ça une noce de sang. Donc, il évoque cet engrenage sanglant qui les lie l'un à l'autre. Et donc, il ne protestera pas contre la torture, à l'instar d'autres intellectuels de l'époque, notamment catholiques, mais c'était beaucoup plus large, parce qu'il ne voudra pas cautionner, d'une certaine manière, cette critique trop engagée dans un seul côté. Il voudra toujours globaliser son approche et critiquer de front le terrorisme du FLN, d'un côté, qui lui paraît hautement condamnable, et d'un autre côté, la torture de l'armée française, qui lui paraît également condamnable. Et dans les deux cas, il va critiquer quoi ? Il va critiquer le fait que l'armée française, d'un côté, et le FLN, de l'autre, ont cru avoir trouvé l'arme absolue. D'un côté, la torture, oui, la torture, il le dit dans ce texte, c'est un moyen d'avoir des renseignements immédiats. Mais il dit aussi, c'est un moyen aussi de faire le deuil d'une réconciliation future. Parce que c'est un engrenage qui, effectivement, nous pousse jusqu'au bout d'une incompréhension.
De sorte, Denis Salas, que ça n'est pas c'est bien sûr par principe, mais pas seulement par principe qu'il s'oppose à la torture. C'est également en conséquentialiste.
Oui, alors là, pour le coup, vous avez tout à fait raison. Camus,
c'est pas une âme pure.
Camus, sur la question de la torture en tout cas, dit « j'abandonne le point de vue moral ». Il ne veut pas avoir de point de vue moral. Lui qu'on décrit souvent comme étant un moraliste, hautain, etc. Pas du tout. Il est très sur le terrain. Il va en Algérie à plusieurs reprises. Il est aux côtés des modérés du camp, du côté des Français d'Algérie notamment, et il va essayer de comprendre avant tout ce qui se passe. Et il va voir les enjeux politiques. Et il va refuser de participer à des commissions d'enquête que le gouvernement Guimollet voudra organiser pour essayer d'atténuer ce qui pouvait être fait à l'époque, parce qu'il sentait bien qu'il y avait une caution politique qu'il ne voulait pas donner, à laquelle il ne voulait pas associer son nom, de cette manière. Donc il va tenir cette position, cette tension dans l'appel à la trêve civile en 57, je crois.
56,
pardon. Il va tenir toujours cette tension en essayant de dénoncer les deux violences mimétiques, parce que si chacun campe sur sa propre position, l'arme absolue, c'est la torture, l'arme absolue, c'est le terrorisme, on va vers une escalade qui va provoquer une apocalypse à l'intérieur de laquelle il n'y aura absolument plus de paix possible un jour. Donc il va avoir cette critique très importante de l'arme absolue qu'il retrouvera dans la bombe atomique, Hiroshima. Ça me semble très très important. Il voit que la violence poussée à l'extrême, qu'elle s'appelle torture, qu'elle s'appelle terrorisme, qu'elle s'appelle l'arme atomique, détruit l'humanité. Et il va en quelque sorte être une vigie, en quelque sorte, pour repousser de toutes ses forces cet engrenage de la violence qui va nous conduire en dehors des frontières de l'humanité.
Jean-Yves Guérin.
J'ajouterais le camp de concentration.
Oui, absolument. Absolument. Et au combien il a combattu avec ses amis de l'Est quand la Hongrie a été envahie et quand on a appris l'existence des camps de concentration. Lui seul à l'époque, là où on ne voulait pas trop voir ce qu'à l'époque avait révélé David Rousset.
Alors, il y a quand même deux choses étonnantes et étonnamment complexes dans le texte qu'on vient d'entendre. Camus, dans ce texte, à un moment, d'ailleurs, il ne met pas de guillemets, on lui pardonne, cite Platon. « Il vaut mieux souffrir certaines injustices que les commettre. » C'est une phrase de Platon. C'est une phrase de Platon et c'est une position morale très forte. L'argument de Platon, d'ailleurs, étant lui-même en apparence conséquentialiste, disant « celui qui souffre l'injustice souffre moins que celui qui commet l'injustice », c'est le discours de Platon, et que par conséquent, il y a tout intérêt, on n'est pas ici dans la morale, mais dans un calcul, il y a tout intérêt souffrir une injustice plutôt qu'à la commettre. Mais en réalité, personne n'est dupe, évidemment, et le lecteur ne l'est pas, et l'interlocuteur de Socrate ne l'est pas non plus. Il y a derrière cela une position morale très forte. Et pourtant, cette position morale très forte est au service, chez Camus, d'un discours véritablement conséquentialiste, du réalisme, de l'efficacité, de ce qu'il faut faire pour ne pas abandonner l'Algérie et pour ne pas, par là même, verser à la fois dans le déshonneur et également dans une faute politique, Jean-Yves Guérin.
Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire tous les deux. Je le formulerai peut-être autrement. Ce que Camus refuse, c'est la logique du pire. La torture, d'un côté, le terrorisme, ce que vous appelez l'arme absolue, c'est le pire. Et le pire, pour Camus, est destructeur, non seulement de vie, mais de vivre ensemble. On ne peut plus vivre ensemble lorsqu'on est passé à l'extrême. Et il y a dans le texte qu'on a lu, qui est de 1958, une densité, une force de conviction et une force morale assez extraordinaire. C'est un des plus grands textes de Camus, qui est d'une lucidité implacable par rapport aux événements et d'un courage extraordinaire, un courage inaudible à l'époque.
Et cette lucidité qui est celle de Camus, est-ce qu'elle ne donne pas également en creux le sentiment que finalement la probité intellectuelle qui est la sienne, qui l'oblige à envisager les deux points de vue, qui l'oblige à être attentif aux deux angles de vue, l'angle des Français d'Algérie et celui des Algériens d'Algérie en l'occurrence, est-ce que cette probité intellectuelle ne manifeste pas là non plus sa faiblesse politique? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas là une illustration du fait que, pour le coup, contrairement à ce que dit Platon, la politique ne peut pas être l'affaire des intellectuels? Quand on fait de la politique, on ne peut pas... Disons que la version politique de la probité intellectuelle qui oblige Camus à envisager tous les points de vue serait l'indécision politique. Denis Salas.
C'est une vision un peu sartrienne, me semble-t-il.
Allez-y, c'est pas un gros mot non plus.
Parce qu'on peut aussi dire, ce qui est plutôt mon point de vue, que le rôle de l'intellectuel, c'est pas seulement d'être du côté d'une force politique. Effectivement, il était facile pour beaucoup d'intellectuels d'être du côté du camp de l'indépendance. Jean Daniel a dit à plusieurs reprises qu'il était à l'époque en désaccord avec Camus parce qu'il estimait que l'indépendance était inéluctable. Mais le rôle peut-être aussi de Camus, son rôle à lui, sa place à lui en tant qu'intellectuel, c'était de dire aux deux camps en présence une vérité qu'il ne voulait plus entendre. Donc je pense que c'était une place difficile, sans doute impossible, mais qu'il a voulu tenir. Et je crois que de ce côté-là, c'est aussi une manière d'être du côté d'une force politique plutôt que d'une faiblesse.
En un mot, Ce n'est pas un discours de guerre,
non.
C'est un discours en temps de guerre. Et en temps de guerre, Lévinas a dit des choses fort justes et fort belles là-dessus, on suspend la morale. Peu importe le prix de la victoire. Or, pour Camus, les crimes ne s'équilibrent pas, ils s'additionnent. Il y a des crimes des deux côtés, on ne peut pas applaudir certains crimes et condamner les autres. Un crime est un crime, quel que soit l'auteur, quelle que soit la victime. Et là, je crois qu'il a une position très forte que l'on voit beaucoup mieux aujourd'hui.
Ce qui est très, très, qui est une constante chez lui, je relisais l'autre jour les lettres à un ami allemand qui sont de 43, la dernière de fin 43, me semble-t-il, et il dit à cet ami allemand hypothétique, qu'est-ce qui me différencie de vous, au bout du compte, moi qui suis un homme aussi du désenchantement, ciel est vide, etc. Vous avez embrasé un héroïsme sans direction. Un héroïsme sans direction, c'est un héroïsme sans finalité morale. Alors que je revendique, moi, un héroïsme qui est un héroïsme qui choisit le vivre ensemble, qui choisit une finalité, qui choisit le bonheur, et il termine par ce mot, le bonheur est la chose beaucoup plus difficile que l'héroïsme. Donc il y a une volonté de construire le vivre ensemble chez Camus et de renoncer à un héroïsme facile qui effectivement recueille des suffrages, mais qui finalement ne conduit qu'à la destruction et à la mort.
Le passage auquel vous faites référence se trouve dans la quatrième lettre à un ami allemand. On va l'entendre tout de suite, justement.
J'ai choisi la justice, au contraire, pour rester fidèle à la terre. Je continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur. Mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c'est l'homme, parce qu'il est le seul être à exiger d'en avoir. Ce monde a du moins la vérité de l'homme, et notre tâche est de lui donner ses raisons contre le destin lui-même. Et il n'a pas d'autre raison que l'homme. Et c'est celui-ci qu'il faut sauver si l'on veut sauver l'idée qu'on se fait de la vie. Votre sourire et votre dédain me diront « qu'est-ce sauver l'homme ?» Mais je vous le crie de tout moi-même, c'est ne pas le mutiler, et c'est donner ses chances à la justice qu'il est le seul à concevoir. Voilà pourquoi nous sommes en lutte. Voilà pourquoi nous avons dû vous suivre d'abord dans un chemin dont nous ne voulions pas et au bout duquel nous avons, pour finir, trouvé la défaite. Car votre désespoir faisait votre force. Dès l'instant où il est seul, pur, sûr de lui, impitoyable dans ses conséquences, le désespoir a une puissance sans merci. C'est celle qui nous a écrasés pendant que nous hésitions et que nous avions encore un regard sur des images heureuses. Nous pensions que le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Même dans la défaite, ce regret ne nous quittait pas. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Nous sommes entrés dans l'histoire.
Il faut bien dire ici que quand Camus dit « nous sommes entrés dans l'histoire », c'est en un sens l'accusation suprême. Puisque Camus, l'une des particularités de Camus, et là encore d'ailleurs, l'un des malentendus autour de Camus, vient du fait que Camus a toujours, en un sens, pondéré l'idolâtrie de l'histoire par la référence à la nature anhistorique. Entrer dans l'histoire pour Camus, de ce point de vue, il est peut-être un peu rousseauiste, d'ailleurs. C'est une forme de déchéance, c'est une façon de déchoir. C'est une façon également de s'inscrire dans un jeu funeste, un jeu mortifère. Le reproche qu'il fait à l'allemand, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier texte, on entendait que nous avons fini par vous ressembler. C'est le même enjeu ici. Le danger de la violence, c'est qu'elle est contagieuse. Et le reproche suprême, c'est d'avoir été contraint par la force des choses. Et on retrouve ici la justification de l'injustifiable violence. C'est d'avoir été contraint par la force des choses d'entrer dans l'histoire, Jean-Yves Guérin.
Oui. Camus a été sensible à la contagion mimétique de la violence, alors que évidemment il ne connaissait pas les grands ouvrages de René Girard sur la violence, mais il a très bien compris que les techniques et les pratiques absolues de la violence circulaient entre les camps, et que à partir du moment où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, le pire est possible. Et le pire, on l'a d'un côté et on l'a de l'autre. Parce que parce que, et là je crois que c'est peut-être une grande idée de Camus aussi, les organisations pratiquant de façon extrême la violence sont des laboratoires des États qui ensuite la pratiqueront. De l'organisation terroriste à l'État totalitaire, il y a un chemin pour Camus, et là je crois encore il est très fort.
Merci Denis Salas, merci Jean-Yves Guérin. Denis Salas, je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de Albert Camus, La Juste Révolte, paru chez Michalon. Et Jean-Yves Guérin, je signale et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un indispensable dictionnaire Albert Camus, paru chez Lafon dans la collection Bouquins. On se retrouve en tout cas, nous, demain pour la suite de cette semaine sur Albert Camus. Et tout de suite, vous retrouvez le journal des Nouveaux Chemins, Adèle Van Rett et David Camus.
David Camus, on continue notre discussion autour d'Albert Camus, donc à la suite de cette semaine consacrée à Albert Camus dans le Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est de là votre avant-dernier entretien, on finira demain cette discussion. Nous avons hier évoqué le thème de l'amour et de l'humour, d'ailleurs. Et vous avez dit, lorsque vous parliez de la présence et de l'importance de l'amour pour Albert Camus, que Albert Camus n'était pas pour, si je peux dire, n'avait pas une conception de l'amour passionné, puisque de toute façon, elle était contre le fanatisme en général.
Oui, les fanatismes en général. Ça, c'est très vrai. Je voudrais revenir sur la question de l'amour. Juste un détail, le prince charmant. J'ai toujours été... ça a toujours hérissé le poil, cette formule. Je me méfie beaucoup du prince charmant. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais du prince charmé, par exemple? Comme s'il était satisfaisant d'avoir un prince charmant qui viendrait comme ça... nous permettre de vivre heureux toute notre vie. Je dis ça, c'est pas une critique des femmes, parce que je pense qu'il y a l'équivalent chez les hommes. Mais en gros, on voudrait pouvoir être heureux toute sa vie sans avoir aucun effort à faire. Donc je pense qu'il faut se méfier malgré tout de l'idée du prince charmant. Alors je sais pas si j'ai hérité ça de grand-père ou pas. Tout comme il faut se méfier, je crois que je le retrouve chez grand-père, des idéologies quelles qu'elles soient, ou des fanatismes, quels qu'ils soient. Hein, on peut parler de politique, on peut parler de religion.
En tout cas, cette question du fanatisme nous permet d'évoquer la relation d'Albert Camus à la vérité et à l'idéologie en général, puisqu'Albert Camus était foncièrement contre toute forme d'idéologie.
Oui, parce que je pense que chez lui, il y avait ce soupçon, si j'ose dire, pour reprendre un terme qui lui est cher, justement, ce soupçon que les idéologies empêchent de penser. Je ne sais plus dans quel texte il en parle. Enfin, ma grand-mère, donc sa femme, mamie Francine, m'avait toujours dit que grand-père traitait les politiques de ratés du bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est
ratés du bonheur.
Les ratés du bonheur. Ce sont des personnes qui finalement passent et vont passer à côté du bonheur. On présente toujours grand-père comme un auteur engagé. Hein. Et par là, on entend engagé politiquement. Mais si on regarde bien sa vie, son œuvre et son comportement vis-à-vis des politiques, on s'aperçoit d'une chose extrêmement simple, c'est que dans son cas, en tout cas, engagé politiquement, ça veut dire à distance des politiques. Et vraiment à grande distance. Hein. Je crois qu'il s'en méfiait comme de la peste. Justement, je crois que c'est ce qui donne le caractère si particulier de ces articles, hein, de ces écrits. Il y a une pensée libre, malgré tout, qui s'exprime librement. Je crois que ce qui fait sa force, si vous voulez, c'est qu'il ne cherche pas à aucun moment à se rallier à un camp ou à attaquer un autre camp, non. Il essaye de traiter un sujet et de nous l'exposer, nous exposer son point de vue le plus librement possible. Et c'est quelque chose de pas si évident que ça, et je suis obligé de m'apercevoir, malheureusement, avec le temps qui passe, que c'est pas si fréquent non plus que ça. Donc très souvent, si vous voulez, on réagit, on ne réfléchit pas. Dans la presse, ce sont plus des réactions que des réflexions. Justement, pour revenir brièvement là, sur l'affaire du Panthéon que vous aviez évoquée, je crois, mardi. Bon, moi j'ai eu le sentiment, je vous le dis franchement, qu'en gros, on n'était pas un vrai intellectuel si on n'avait pas publié au moins deux articles sur le sujet dans la presse. Mais je n'y ai pas trouvé de vraies réflexions. J'y ai trouvé des idées, des arguments. Tout ça, pour moi, sonnait creux. Parce que, à un moment donné, il faut considérer l'homme. Et ça, c'est propre à la pensée de grand-père, et c'est quelque chose qui se fait assez rarement. Considérer l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le père. le père de mon papa, le père de ma tante. Ça veut dire le mari de ma grand-mère, c'est-à-dire le fils. Ils sont enterrés à côté. Hein. Est-ce que vous, ça vous amuserait qu'on débatte en place publique de savoir si on doit déplacer le corps de votre père et qu'au fond, certains même estiment qu'on n'a pas à vous poser la question? Je trouve ça assez violent.
C'est parce que là, on fait passer l'homme de lettres, le grand homme avec des majuscules, avant le père, effectivement, de famille.
Oui, mais d'une part, ils ne sont pas forcément séparés dans son œuvre. Mm-hmm. Ils ne le sont pas forcément pour nous non plus. Mais c'est vrai, au fond, qui sommes-nous? Je veux dire, on n'est que deux enfants, quatre petits-enfants, c'est rien par rapport au reste. Mais vous remarquerez quand même que pour rendre hommage à un homme de lettres, on n'est pas obligé de déplacer son corps. Il y a un rapport à la mort qui est quand même très particulier. Je pense que la mort devrait rester du domaine privé. Ce qui appartient au public, c'est pas la dépouille de mon grand-père, c'est son œuvre. Elle est là, je dirais, pour tout le monde. En plus, le cimetière à Drommarin, n'importe qui peut y aller. Enfin, on entre, on sort, c'est gratuit. C'est pas du tout le cas du Panthéon. Ça serait une idée bizarre, quand même. Non, ça c'est vraiment... pour en revenir à la pensée de grand-père, il disait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Alors là, c'était dans La Peste. Hein, dans La Peste, il parle de ces gens qui cherchent à penser par-dessus les hommes. C'est quelque chose comme ceux qui avaient pensé par-dessus les hommes et cherchaient une chose qu'ils n'étaient même pas capables d'imaginer. On peut penser à Dieu, par exemple. Hein. Cela n'avait pas de réponse. Je crois que chez grand-père, il y a une certaine forme d'humilité ou reconnaissance de ses limites, ce que vous voulez. D'autres pourront l'appeler orgueil aussi. À essayer de considérer d'abord et avant tout l'humain dans ses limites, dans sa fragilité, dans ce qu'il a de plus faible, peut-être.
Et ça expliquerait, selon vous, sa réticence face à l'idéologie et le fait de ce que vous disiez.
Mais les idéologies, d'une manière générale, se moquent de l'humain. Ou alors, elles le reportent à plus tard. J'ai spontanément des tas d'exemples qui me viennent à l'esprit, notamment La ferme des animaux d'Orwell. Mais l'humain encombre l'idéologie. Il ne rentre pas dans la case. Jamais. Vous prenez n'importe quel système, y compris philosophique, ce que vous voulez, l'humain dérange d'une certaine façon. C'est comme s'il fallait à un moment, je ne sais pas, cesser de penser. Par exemple, si on pense au problème de la mort, moi, il y a une chose qui me frappe énormément sur ce sujet, hein. C'est notre appétit de réponse ou notre exigence de réponse. C'est-à-dire notre incapacité à nous satisfaire, je sais que c'est pas satisfaisant d'ailleurs, mais enfin, à nous contenter en tout cas d'un mystère. Il y a un paradoxe dans la mort. C'est à la fois quelque chose de très clair, de très net, de très sûr, on va tous mourir, et c'est en même temps quelque chose de tout à fait obscur et mystérieux, parce qu'on ne sait pas.
En ce qui concerne notre propre mort, oui.
Celle
des autres, parce qu'ils sont encore vivants.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas au courant pour celle des autres non plus. Donc, je comprends qu'on puisse avoir envie de répondre à ça. Je le comprends. Mais je considère qu'il n'y a pas de réponse, pour l'instant. Et qu'il n'y a pas de réponse à apporter là. Donc, je ne chercherai pas de réponse. Je pense que grand-père, s'il a cherché à répondre à quelque chose, ce n'est pas à la mort, précisément, c'est à la vie. Et à lui répondre le plus ouvertement possible, le plus possible. Quand on disait, je crois que c'était mercredi, quand on parlait de la sensualité, de l'amour de la nature, l'amour des autres, je crois que c'est ça, justement. Répondre oui à la vie, lui répondre présent.
Voilà, Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui, et demain ce sera fini pour l'été, puisque demain c'est la dernière émission, qui est également la dernière émission de cette semaine sur Albert Camus. On y entendra notamment Pierre-Louis Rey et Jean-Louis Saint-Ignan revenir sur le premier homme d'Albert Camus. Retrouvez cette émission et toutes celles qui la précèdent sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent téléchargement, bibliographie, écoute en ligne, ainsi évidemment que le journal des Nouveaux Chemins. Rendez-vous demain donc, 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.